reluctant and...
Bonsoir, bonsoir. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité.
Cette fois, c'est bien à toi, Jean-Manuel. Vas-y.
Bon, donc, on reprend. Nous sommes sur les Muses s'amusent de la radio, de la radio anarchiste. 89.
Alors là, j'ai une question tout de suite et je te coupe, je suis désolée. Les Muses s'amusent, tu l'as piqué aux féministes,
ça? Ah, complètement.
Tu l'assumes?
Ah, oh, j'assume. Je te remercie de ne pas avoir dit tu endosses. Maintenant, ce verbe endosse va être légèrement contaminé. Oui, les Muses s'amusent, c'est piqué aux féministes. Alors, on va parler ce soir d'un musée extrêmement intéressant qui s'appelle, d'ailleurs tu commences bien avec les féministes, puisqu'il s'appelle le musée de l'homme.
Eh oui, dis donc, alors les nanas, elles sont où là? Bon,
Les femelles.
Les femelles, si
les
tu préfères.
Les femelles, eh oui, le musée de l'homme. Alors évidemment, si tu étais plus rusé, de l'appeler par exemple le musée de l'humanité.
Oui, ou de l'être humain.
Ou de l'être humain.
Et humaine, à ce moment-là, on aurait dit, mais bon, c'est...
Hein, mais bon, c'est loupé, c'est le musée de l'homme. Alors, le musée de l'homme, il est un peu vieux.
Il se trouve où d'abord?
Alors, tout d'abord, où est-ce qu'il se trouve? Parce qu'on a eu une petite discussion avec Christiane avant l'émission, et elle
c'est
a...
C'est pour ça qu'on était en retard, puis qu'on vous a remis le générique, enfin, on a un peu merdé, quoi.
Voilà, c'est pour ça qu'elle avait le rouge au front, en disant, mais attends, mais il est où, le musée de l'Homme? Alors, le musée de l'Homme, il est sur la colline de Chaillot, dans le palais du Trocadéro. Vous avez cet énorme palais style années 30, sur une colline que Napoléon Ier avait déjà repérée et sur laquelle il voulait construire le palais, un palais pour le roi de Rome. Et puis heureusement, il ne l'a pas fait. Et le musée de l'homme, donc né en 1937, il est lui-même descendant d'un musée qui s'appelait le musée d'ethnographie du Trocadéro. Alors encore une fois, le nom est un petit peu embêtant parce que le Trocadéro, tout le monde a oublié. Enfin, c'est quand même un mot relativement répugnant puisque Louis XVIII, voulant prouver aux autres monarchies européennes qu'il était bien un monarque et non pas un affreux révolutionnaire ou un impérialiste français, eh bien quand il y a une révolution en Espagne en 1800, je me souviens plus très bien, 23, je crois peut-être un tout petit peu avant, enfin bon bref, eh bien il envoie des troupes qui écrasent cette révolution peut-être démocratique, on ne saura jamais, et la victoire principale, eh bien c'est une victoire qui a lieu en un endroit appelé le Trocadéro. Donc, le mot Trocadéro, c'est pas si fabuleux que ça. Alors, le palais du Trocadéro, il avait été construit pour une exposition universelle et on avait en même temps décidé, on s'était dit, bon ben, on va célébrer notre tout beau, tout neuf empire colonial et ses peuples et on va créer un musée d'ethnographie. Alors, l'ethnographie au départ, c'est une science très ambiguë. Je m'explique. Tout d'abord, le mot lui-même est assez simple, hein, ethnographie, écrire sur les peuples, bon d'accord. Mais comme vous le savez, en français, il y a le peuple, et puis il y a les ethnies. Hein. Les ethnies, en général, ne sont pas très blanches, puis elles ne sont pas très métropolitaines, pour utiliser le mot classique, et lui, qui lui aussi a évidemment une connotation hiérarchique immédiate. Et donc, ce musée avait pour but de présenter et de renseigner sur tous ces peuples qui existaient au-delà, dans l'outre-mer, au-delà donc de la France, et en particulier dans son empire colonial. Et donc voilà l'ambiguïté dès le départ. Est-ce que l'ethnographie est une vraie, entre guillemets, science, donc a priori objective et impartiale? Ou bien est-ce qu'elle avait un but, d'ailleurs pas du tout clandestin, pas du tout caché, qui était, il faut comprendre les peuples qu'on colonise, histoire, tout simplement, de mieux les dominer. On va dire qu'à l'époque, on se pose pas beaucoup cette question-là, parce que se poser la question de est-ce qu'on va les dominer, ça fait quand même pas mal consensus. Et l'homme derrière la création de ce musée d'ethnographie du Trocadéro, vous allez être à la fois surpris et pas surpris, c'est Jules Ferry. Jules Ferry, donc ce monsieur qui, pour l'époque, était censé être à gauche, puisque évidemment, à cette époque-là, dans les années 1878, eh bien, la droite, c'est quand même une droite directement royaliste, donc être républicain, c'était être à gauche. Mais notre bon Jules Ferry, eh bien, ce côté l'ethnographie, ça va servir à améliorer la colonisation, c'est exactement ce à quoi il pense. Et puis, il y a également autre chose, c'est que on est à l'époque où tout d'un coup, il y a les sciences sociales, alors les autres sciences sociales, commencent à émerger, et on va voir en particulier arriver très vite, eh bien, Darwin. Et Darwin, ça va bien entendu poser le problème des races. Puisque à cette époque, en 1878, on est absolument convaincu que l'humanité se divise en races et va y avoir pendant très longtemps dans l'histoire du Musée de l'Homme une tension entre, d'abord, au départ on va croire effectivement que l'humanité est bien divisée en races et puis il va y avoir ceux qui vont dire immédiatement il y a donc une race supérieure et des races inférieures. Et puis il y a ceux qui diront, non mais elle a beau être divisée en races, toutes les races sont égales. Et l'idée que l'humanité n'est pas divisée en races, et évidemment, du point de vue du consensus qu'elle fait, c'est une idée extrêmement neuve. Alors, revenons-en à notre musée originel. On a, en gros, oublié la tête qu'avait le palais du Trocadéro, quand il était palais du Trocadéro et non pas palais de Chaillot. Mais en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ce palais de Chaillot actuel, eh bien, c'est tout simplement une couverture style 1937, posée sur une infrastructure qui est bien celle du vieux palais de Chaillot. Quelle est la grande différence? C'est une différence qui, alors, esthétiquement, est absolument merveilleuse. Au centre de l'ancien palais du Trocadéro, il y avait une espèce d'imitation de mosquée obèse, ballonnée, flatulente, abominable. Enfin, c'était une catastrophe architecturale. Et fort heureusement, ça, on va la faire complètement disparaître et on va laisser place à cette belle vue et cette belle ouverture qu'il y a encore aujourd'hui. Et puis donc, on va investir les lieux et créer, modifier le musée d'ethnographie en musée de l'homme. Alors ce musée de l'ethnographie, l'ancien musée, par quoi, qu'est-ce qui entrait dedans? Eh bien c'est très simple, puisque la France à un empire colonial qui date quand même de maintenant quasiment presque 300 ans, eh bien, c'était... Pardon ?
Autant que ça ?
Ah oui, parce que nos premières colonies, c'est déjà Louis XIII, Louis XIV, c'est pas énorme.
C'est où ?
Ah ben, il y en a un petit peu aux Antilles, par exemple. D'accord. Et puis au Sénégal, on a le tout premier comptoir au Sénégal, c'est très très ancien.
Oui, parce que l'Algérie, enfin les pays du Maghreb, c'est...
Les pays du Maghreb, c'est 1830. Hein.
Voilà.
Mais notre empire...
L'Indochine, je ne sais pas.
L'Indochine, c'est pas... Alors là, c'est pareil, c'est Jules Ferry, il y avait eu un gros débat, où Jules Ferry, justement, avait poussé pour la colonisation de l'Indochine, et la vraie, entre guillemets, gauche de l'époque, hurlait en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Désolé, qu'on les laisse tranquilles. Mais Jules Ferry a bien entendu... Un, c'était la mission civilisatrice de la France. Deux, il fallait...
Ah oui, c'est nos ancêtres les Gaulois.
Ah oui, bah oui, c'est bien connu.
Les
ancêtres au Vietnam, leurs ancêtres sont des Gaulois, c'est bien connu. Un peu spéciaux. Mais... Et donc, il fallait damer le pion, un, aux Anglais, et deux, aux Allemands. C'est-à-dire aux Anglais, les gars qui avaient déjà établi beaucoup de choses, et les Allemands, les petits nouveaux qui essayaient d'arriver et de nous dépasser, ce qui était évidemment insupportable. Donc, pour en revenir à notre musée d'ethnographie du Trocadéro, ce sont au départ principalement les officiers de marine, donc c'est-à-dire les officiers principalement impliqués dans le développement des colonies, c'est-à-dire l'invasion des pays à coloniser, eh bien, ils ramènent beaucoup d'objets. Alors, en plus, bien entendu, les missionnaires, puisque la colonisation française, comme les autres colonisations, a été faite main dans la main avec les missionnaires, et c'était très souvent les missionnaires qui partaient en avant-garde. Donc les missionnaires, eux aussi, ramènent des objets et s'intéressent évidemment aux religions locales parce qu'il s'agit là très précisément de les combattre, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils se tirent une balle dans le pied parce que, en diffusant la connaissance des religions locales, ils vont diffuser la certitude que la religion, c'est très relatif puisque ça dépend de ces dites cultures locales.
Enfin, il faut quand même penser à une chose, c'est qu'actuellement, tout ce qui a été aussi d'autres formes de colonialisme, comme par exemple l'aide en Amérique latine à toutes les dictatures, ont été faites main dans la main dans beaucoup de pays, notamment au Guatemala, mais pas seulement, au Brésil, avec les évangélistes, qui comme ça squattent eux tout, c'est-à-dire toutes les, vraiment, la santé, le fric, l'école, etc. Donc ça aussi, c'est, voilà, ben, ça continue quoi en fait.
Ah, ça continue avec...
Avec d'autres habits.
Avec d'autres habits, absolument. Et ce qui va se passer, c'est que ce musée d'ethnographie, eh bien, va péricliter. On va pas lui donner beaucoup de budget, on va pas en faire grand-chose. Seulement, voilà, va y avoir trois bons hommes qui vont un peu sauver la chose. Tout d'abord, un très grand sociologue et anthropologue, Marcel Mauss, qui est célèbre en particulier pour ce qu'il a écrit sur le don. Et puis un monsieur moins connu, Paul Rivet, qui est responsable de la chaire d'anthropologie de ce musée, du muséum. Et en 1928, c'est lui qui prend la tête du musée d'ethnographie du Trocadéro. Et il se dit, non, là, c'est pas sérieux, il faut qu'on en fasse quelque chose de plus intelligent. Et en particulier, il veut en faire quelque chose qui va ressembler au muséum d'histoire naturelle, c'est-à-dire au jardin des plantes, hein, pour les Parisiens. C'est-à-dire un musée qui va combiner à la fois la diffusion et l'enseignement, ce que le grand public pense être la mission primordiale d'un musée, mais qui va en même temps avoir des activités de recherche et de conservation. Et on va avoir la chance que, comme on commence à prévoir qu'en 1937 va y avoir une énorme exposition universelle, qui en fait s'appelait très précisément l'Exposition internationale des arts et techniques, on a décidé de détruire l'abominable centre du Palais Trocadéro, de reconstruire au-dessus donc le bâtiment que l'on connaît actuellement, et on se dit, eh ben, c'est très simple, on va complètement renouveler le musée d'ethnographie et on va l'appeler le musée de l'homme. Et on va même, en même temps, mettre à côté un musée qui en est relativement vite parti, le musée des arts et traditions populaires. Alors, souvenez-vous que ce musée des arts et traditions populaires, eh bien, ensuite, il a déménagé dans le bois de Boulogne, et on l'a encore fait déménager en profitant, en essayant de le diminuer le plus possible, en l'envoyant, si je ne me trompe, à Marseille. Et la thèse de base de ce musée de l'homme, c'est qu'il va combiner 3. Science, l'ethnographie, l'anthropologie physique et la préhistoire. Alors, quand on dit anthropologie physique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'était évidemment la, entre guillemets, la science la plus discutable, puisque c'est celle du corps humain. Non pas du corps humain du point de vue de sa pathologie, c'est pas de la médecine, mais de se dire, voilà, on connaît le corps, c'est de la zoologie appliquée à l'espèce humaine. Qu'est-ce que c'est que le corps humain? Quelles sont ses variétés? Et à l'époque, bien entendu, on est en pleine problématique du racisme. Évidemment, en 1937, le nazisme est déjà installé en Allemagne. Alors, fort heureusement, Paul Rivet, lui, n'est pas du tout raciste. Ça lui prendra un certain temps pour comprendre que le concept même de race n'est absolument pas scientifique. Mais en tout cas, il est tout à fait contre le fait d'avoir une hiérarchie des races. Et ce sera l'un des buts du Musée de l'Homme qu'il va créer, que de montrer que cette hiérarchie entre les races n'existe pas. Mais il y avait un problème de base avec ce Musée de l'Homme, qui était un problème intellectuel. Parce que de vouloir présenter d'un côté l'anthropologie physique, c'est-à-dire le corps de l'être humain, et en même temps toute sa diversité culturelle, donc ce qu'on appelait l'ethnographie, qu'on pourrait éventuellement continuer à appeler aujourd'hui ethnologie, le problème c'est comment ça s'articule. Et en réalité, on s'aperçoit maintenant que c'est pas une bonne idée de vouloir trop les séparer. Et là-dessus, on va prendre un tout petit peu d'avance, on en rediscutera un peu plus loin dans cette émission. Il y a quelque chose qui est unique à l'espèce humaine, la division de l'espèce humaine en deux, au moins, sexe. Ça, évidemment, ça se retrouve dans la majeure partie du règne animal. Des comportements typiques de tel ou tel sexe, ça se retrouve également dans tel ou tel, dans une grande partie du règne animal. En revanche, le fait d'utiliser des objets extérieurs pour marquer à quel sexe on appartient ou à quel sexe on veut appartenir, ça, c'est une caractéristique complètement humaine. Et c'était l'un des problèmes de ce Musée de l'Homme de 1937, c'était comment articuler les deux concepts. Et je dois dire que la nouvelle version du Musée de l'Homme actuel, elle a plutôt bien réussi à conjuguer les deux.
Je tourne en rond. Dans
Alors ça, j'ai un petit peu devancé, un peu, j'ai sauté un petit peu l'histoire, dans l'histoire que racontait donc Jean-Manuel. Ça, c'est simplement, ça c'est évidemment au moment de la résistance. Puis c'est une chanson qui est très connue, etc. Je dirais simplement qu'elle est extraite d'un très bel album qui a été édité par Natto avec énormément d'artistes, et notamment Tony Aimas, et qui s'appelle Chronique de la Résistance. Mais peut-être nous aurons le temps de passer une autre chanson. Mais ça, c'était donc pour te demander, revenir un peu en arrière. Toi, tu parlais de 1937, de cette exposition, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'occupation ? Et voilà.
Alors, c'est assez simple. Et en même temps, c'est très admirable. En juin 1940, donc, l'armée française, qui se croyait la plus forte et la meilleure du monde, prend une claque magistrale. Les nazis envahissent la France. Le gouvernement capitule. L'Assemblée vote les pleins pouvoirs à un vieillard sénile et qui a été à moitié en démence sénile.
Bah déjà, il avait été pas mal pendant la Première Guerre mondiale.
Il avait déjà été assez brillant.
Dans son rôle de boucher, c'était pas mal.
C'était pas triste. Hein, voilà. Pétain, l'ami de l'humanité.
C'est ça.
Et la France, c'est la honte. Et tout d'un coup, tous les Français réalisent que les Allemands sont là et ils vont rester. Et il va se passer quelque chose qu'on va appeler ensuite l'occupation. Et il va y avoir deux institutions, qui vont immédiatement décider de lancer des activités de résistance. Alors une première, c'était tout à fait compréhensible, parce que c'était les professionnels, les services secrets, quoique constitué comme d'habitude de beaucoup de gens d'extrême droite, mais enfin malgré tout quand même un petit peu patriote sur les bords, ça les défrise quand même. Et donc les services secrets vont créer le premier réseau de résistance très facilement, puisque tout simplement, eux, ils savent faire ça tout le temps. Mais là où ça devient nettement encore plus admirable, eh bien, c'est que des civils, qui n'avaient strictement aucune expérience de la lutte clandestine, eh bien, ils vont eux aussi créer le premier réseau de résistance civil. Et là, évidemment, vous devinez, eh bien, c'était des ethnologues, des scientifiques du Musée de l'Homme. Alors, pourquoi ?
Mais je me demandais une chose en t'écoutant. En ce qui concerne justement cette trop fameuse exposition sur les Juifs, je crois que c'était en 1942, ou je dis une bêtise, je ne sais pas.
Oui, j'ai 41 ou 42.
Voilà, où il y avait vraiment comment on reconnaît un juif. Enfin, c'est absolument monstrueux, ce qui a été dit et fait. Quand on entend déjà les archives maintenant, on se dit non, mais c'est pas possible. Donc ça, c'était avant qu'il y a eu peut-être cette espèce de conscience. C'est dès le début.
Non, ça, la création du premier réseau de résistance au Musée de l'Homme du Palais de Chaillot, c'est août 1940. Donc c'est loin. Alors, pourquoi est-ce que tout d'un coup...
Mais quand même, il y a une chose, parce que moi, j'ai fait pas mal d'émissions là-dessus. Mm-hmm. En ce qui concerne, en fait, les premiers résistants, c'était des étrangers.
Alors, justement, j'y viens.
Eux le savaient. Hein. Ils avaient l'expérience. Hein.
Exactement, j'y viens. Alors, très précisément, même si le réseau a été fondé collectivement, il y a très clairement un homme qui est qui a été le moteur de la chose, et effectivement, c'est un étranger. Puis alors, c'est un étranger qui est étranger de partout. Je m'explique. C'était un gars qui s'appelait Boris Vildé. Alors Boris Vildé, il naît en Russie, donc originellement il est russe, il naît en Saint-Pétersbourg en 1908. Seulement voilà, dès 1919, sa famille se carapate pour échapper aux soviets, et elle va en Estonie. Bon, alors déjà, l'Estonie, c'est également un pays où on se dit, entre tous les pouvoirs successifs qui les ont envahis et occupés, on y est extrêmement sensible. Et puis, en 1930, Vildé va à Berlin, qui n'est pas encore la capitale de l'Allemagne nazie, à Berlin, il se trouve qu'il rencontre André Gide. Alors, je ne suis pas très au courant de la relation exacte entre André Gide et Boris Vildé. Simplement, Boris Vildé était très très beau, mais alors très 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 beau. Gide était notoirement homosexuel, donc je ne sais pas du tout s'ils sont amants ou pas, mais enfin bon, on s'en fout, c'est pas grave.
Non, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Gide a fait à ce moment-là des reportages qui étaient fort intéressants justement sur la montée. Voilà. Voilà, c'est les prémices du nazisme.
Exactement. Et Gide va être extrêmement active dans, justement, la lutte des intellectuels antifascistes. Alors, Gide, donc, rencontre Wildé et lui conseille de s'installer à Paris. Et en 1932, eh bien, Wildé, carrément, habite à l'étage au-dessus de chez Gide. Et Wildé se lance dans des études de linguistique allemande et japonaise. Gide le recommande à Paul Rivet, donc le gars qui tient le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui est en train de préparer la création du musée de l'homme. Et Wildé est donc engagé. Alors là, Wildé devient donc un excellent ethnologue. On l'envoie justement en Estonie et en Finlande. Alors, je rappelle que l'Estonie, il y a des choses tout à fait étonnantes. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, mais en particulier l'Estonie, ça a été le dernier pays européen à être christianisé. La christianisation de l'Estonie, c'est 1400. C'est très, 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 très tard. Et moi, je suis allé plusieurs fois en Estonie. On sent encore les vieilles traditions païennes extrêmement, extrêmement fortes. La relation avec la forêt, tout ça, c'est tout à fait intéressant. Bon. Toujours...
C'est pour ça que c'était les nazis s'y sont trouvés très bien à un moment donné.
Alors,
parce que tu sais, les dieux de la forêt,
oui, voilà.
Wotan,
voilà.
Oui. Les Valkyries.
Les Valkyries. Alors, heureusement, c'est pas le même. Alors, le folklore finno-ougrien, c'est pas du tout le même. Et fort heureusement. Alors, en tout cas, en 1940, le bon Wildé, il est mobilisé, il est fait prisonnier, il s'échappe, il revient, et il retrouve un autre de ses potes russes, et lequel pote russe vit d'ailleurs avec la bibliothécaire du musée, une femme, Yvonne Audon. Et ces trois-là, eh bien, parlent avec les autres membres du musée, ils parlent également avec les gens du musée juste en face, le musée des arts et traditions populaires, et tous ces gens-là, dont le métier c'est de comprendre et d'analyser, de documenter, de présenter la relativité des cultures, par définition, ces gens-là, ils ne peuvent pas être nazis. C'est pas possible. Et leur histoire personnelle...
Il y a eu des contre-exemples.
Voilà, l'être humain est capable de toutes les contradictions possibles et imaginables. Et Wildé, donc, qui sait très bien ce que c'est qu'un pays totalitaire, eh bien, il est évidemment à fond là-dedans. Et ce réseau va donc être... Un réseau de renseignements très rapidement mis sur pied, et deux, c'est un réseau qui va aider les gens recherchés par les Allemands, donc d'abord les premiers résistants, des Juifs, tout un tas de gens qui se battent, et on va les envoyer, on va faire un réseau pour les envoyer en Angleterre. Wildé sera viré et il va devoir partir a priori en Colombie, mais en réalité, il va revenir en France. Quand même, courage extraordinaire, le gars, il était en sécurité en Colombie. Eh bien, il revient quand même en France, malgré les risques monstrueux. Et manque de chance, évidemment, la Gestapo était une police extrêmement efficace, qui réussit à faire entrer dans le réseau du musée de l'homme un traître, un gars appelé Gaveau. Et en mars 1941, eh bien, la quasi-totalité des membres de ce réseau seront arrêtés. Presque tous, ils le seront la peau. Et il n'y aura... la survivante la plus célèbre, c'est bien entendu Germaine Tillion.
Dear heroes of the French resistance, unfinished dreams of a better world spilt on the ground where you fell. That is the great treasure that you left us. Dreams of a world that would come after fascism and war. A world of bright colors where together we could decide what ways to go. Not this one. A world in which richness would be freed from money. Not this one. A world built on the mutual recognition of our dignities. Not this one. Not this one. The world has changed, but this is not the freedom you died for. Unfinished dreams, failed dreams, lying on the ground where you fell. We have a choice. We can forget your dreams, build you a monument, embalm your resisting in the resistance, kill you again. Therefore, we can pick up your dreams from where they fell. We can redeem your dreams. And as we do so, dead nouns dissolve into verbs. From the shrine of the resistance springs resisting and rebelling. The third person dissolves into the first, no longer a they. You who resisted become part of a we who refuse. The past dissolves into the time of now, and the struggle against fascism flows into the fight against capital. Boundaries dissolve, not just to free France, but to free humanity. Your names change, no longer just Jean and Marie. Now you are Ahmed and Layla and Eloina and Katerina and Bandil and Yoon and Sabu and Hans and more and more and more and more and more. You did not accept. We will not accept. The dreams you left are ours.
Alors ça, ça fait partie aussi donc de cet album Chronique de Résistance, et j'ai choisi cette chanson parce qu'en fait ça lie complètement ce qui s'est passé au moment de la Résistance et donc la lutte contre le fascisme et le nazisme, et également la lutte à aujourd'hui, puisqu'ils disent très clairement que voilà, c'est un peu, ça revient d'une autre manière, comme on disait tout à l'heure, habillé différemment. Alors là, on est donc, on saute. Et on va où, alors?
Alors, où est-ce qu'on va? Eh bien, on va sauter effectivement quelques décennies. Le Musée de l'Homme, après la guerre, devient un lieu... Alors, les vitrines en particulier, les objets, la manière dont les objets sont montrés, ne vont pas changer. Et je me souviens que...
Ils n'avaient rien piqué, les nazis?
Quasiment rien.
Ben non, parce que j'étais pas intéressé.
Ouais, j'étais pas intéressé, c'était des histoires de nègres.
Oh ben oui.
Et donc, c'était très vieillot. Moi, je me souviens d'avoir visité le Musée de l'Homme, enfant et adolescent, et c'était tellement vieillot que c'en était amusant. Hein. On va dire que dans les années 60, les années 70, les vitrines n'avaient en gros pas changé depuis leur création dans les années, dans la fin des 37 et juste après la guerre. Et puis, il va se passer quelque chose de très désagréable, avec quelqu'un de également très désagréable, M. Jacques Chirac. Alors, M. Jacques Chirac se prenait pour un amateur d'ethnologie. Alors, effectivement, il disait des tas de choses là-dessus. Et manque de chance, il y avait un monsieur encore plus vilain que lui qui s'appelait Jacques Kerchach. Et ce monsieur Jacques Kerchach, quel était son métier? Il vendait de l'art dit primitif. Alors maintenant, on ne dit plus art primitif. On va plutôt en général maintenant dire art tribal. Enfin, en tout cas, de l'art qui n'est pas de l'art occidental des époques classiques, mais de l'art qui vient des jungles, des montagnes, des savanes, des déserts, etc. Et, comme tout marchand d'art, ce qu'il souhaitait, c'était que le musée, institution publique et donc officiellement impartiale, légitime de tout son prestige, de tout son pouvoir, de toute son autorité, les objets que lui vendait. Et ce qui l'embêtait beaucoup avec le Musée de l'Homme, c'est que les gens du Musée de l'Homme ne s'intéressaient absolument pas aux activités commerciales de M. Kerchach. Et puis, Kerchach, un jour, a un coup de bol incroyable. Il se trouve juste à côté de Chirac, et il voit que Chirac lit un livre sur des objets ethnologiques. Waouh ! Il se précipite, il commence à parler avec Chirac. Chirac est ravi, et les deux deviennent copains comme cochons. Or, Chirac, il avait un problème.
Oui. Laisse les cochons tranquilles.
Oui, pardon, les cochons. Excusez-moi.
Ils en bavent tellement.
Oui, les pauvres cochons, les insulter en plus.
Tu sais, tout à l'heure, on a décidé qu'ils deviennent copains comme Darmanin.
Voilà, ils deviennent copains comme Darmanin et Macron. Hein, voilà. Comme Herr Darmanin ou Herr Macron. Et ce qui va se passer, c'est que notre bon Chirac, il a un problème. De Gaulle, c'était un monument en lui-même. Pompidou avait construit le centre Pompidou. Giscard avait construit le musée d'Orsay. Ah mais Chirac, merdoum, qu'est-ce qu'il peut construire? Alors il cherche. Et c'est Kerchach qui lui dit « Mais cher Jacques, créons un musée d'art primitif. Alors, on sera gentil, on va l'appeler un musée d'art premier. Et donc, Chirac, emballé, lance le musée, ce qui va devenir plus tard, le musée du Quai Branly. Et vous notez qu'on l'appelle le musée du Quai Branly, parce que on ne sait pas très bien comment l'appeler, parce que tous ces peuples, dits primitifs, premiers, etc., ils n'ont pas d'art. Ils n'ont pas de catégorie sociale mise de côté qui s'appelle de l'art. Quand ils font des objets, ils essaient de les faire beaux. Voilà. Et c'est nous, occidentaux, qui décidons que ces objets, ça s'appelle de l'art. Toujours est-il que le bon Kerchache réussit à manipuler complètement Chirac, et que Chirac, avec l'énergie qu'il caractérise, dit « Eh bien, puisqu'on va créer un musée d'art primitif, d'art ethnologique, on n'a plus besoin d'un musée ethnologique. » Et, vous vous en souvenez peut-être, il avait décidé de carrément supprimer le musée de l'homme. Et pour que ça passe un peu plus facilement, il avait également prétexté que le lieu, le palais de Chaillot, c'était un peu vieillot, il fallait renouveler tout ça, et il voulait tout simplement tout virer du palais de Chaillot. Et il va tomber sur un os totalement inattendu. Éric Tabarly. Parce que comme il voulait également virer le musée de la Marine, Éric Tabarly, lui, grand fan de la musée de la Marine, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, on l'a vu à la télévision disant que, avant de pouvoir fermer le musée de la Marine, il allait falloir lui passer sur le corps. Éric Tabarly, héros de la France. Alors heureusement, ça a un petit peu calmé Chirac. Et donc, au lieu de complètement détruire le musée de l'homme, il a été décidé que tout ce qui était ethnologie allait partir au musée des Quai Branly, mais que ce qui, dans les collections de l'ancien musée de l'homme, appartenait à la préhistoire et à l'anthropologie physique, ça allait rester au musée de l'homme qui allait conserver son nom. Et tant qu'à faire, évidemment, on en a profité pour rénover les lieux, qui en avaient bien besoin, et pour créer un musée avec un style complètement différent, un style évidemment moderne. Et ce musée a donc rouvert ses portes en 2015, et il s'agit maintenant de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans ce musée? Comment est-ce qu'il est fait? Et là-dessus, ma religion est faite depuis longtemps, c'est que c'est un musée à la fois très réussi, et c'est un échec complet. Je m'explique. Quand on visite le musée de l'homme, et qu'on est, comme moi, quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'ethnologie, à l'anthropologie, eh bien, on trouve des tas de choses, et on juge que la structure de fond, la structure intellectuelle du discours tenu par le musée au public qui vient le visiter, c'est un discours tout à fait cohérent, tout à fait important et dans lequel il n'y a pas trop de choses à critiquer. C'est pas révolutionnaire, mais c'est pas réactionnaire non plus. Seulement, voilà. À quel public est-ce que le musée de l'homme s'adresse? L'ancien musée de l'homme s'adressait au grand public et essayait vaillamment, avec les moyens du bord, mais vaillamment quand même, de s'adresser aux enfants et aux adolescents, sans bêtises, sans préchi-précha, mais quand même en étant directement accessible. Et le problème du musée de l'homme, tel qu'il est conçu maintenant, c'est que, très sincèrement, si vous êtes un enfant de 8 ans et que vous entrez tout seul, vous n'y comprenez rien, il y aura des objets rigolos qui vont vous surprendre, mais vous aurez un mal de chien à comprendre ce que sont ces objets. Et même si vous êtes un adolescent ou si vous êtes quelqu'un simplement curieux, mais pas nécessairement terriblement cultivé, ça va être difficile de comprendre exactement ce que signifient ces objets. Alors c'est un peu dommage parce que, à nouveau, la structure est bien fichue. Le musée est divisé en gros en 3 espaces qui veulent répondre à 3 questions absolument fondamentales, et on notera que ça va évidemment nettement plus loin que la seule anthropologie physique et préhistoire auquel Chirac avait voulu réduire ce musée. Ces 3 questions, elles sont « Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et où allons-nous ? » Elle est très forte, Christiane, hein, mais elle écoute. Alors, bien entendu, on voit tout de suite que « Qui sommes-nous ?» c'est pour se servir des collections d'anthropologie physique. D'où venons-nous? Évidemment, ça va permettre de se servir des collections de préhistoire. Et où allons-nous? Ça permet quand même d'élargir un petit peu le discours et de revenir, mine de rien, discrètement, sur l'ethnologie qui a été officiellement évacuée, tant du Quai Branly que de ce musée de l'Homme. Alors,
une petite question. En fait, le musée qui se trouvait Porte Dorée...
Alors, ça, c'était complètement autre chose. Le musée qui se trouvait Porte Dorée, ça a toujours été plus ou moins, selon les il a eu tout un tas de noms, mais c'est un musée de l'Empire colonial français.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est le musée de l'histoire de l'immigration, hein, parce qu'on se sent évidemment un petit peu coupable, un petit peu gêné aux entournures. Donc, on essaie de retourner le truc de manière un petit peu positive. Mais, en gros, c'était un musée qui était destiné à montrer les merveilles de la colonisation française. Donc, on montrait à la fois ce qu'était, jusqu'à un certain point de vue, la culture et la nature au sens zoologique, botanique du terme, des pays qu'on avait colonisés. Et on en rajoutait tout un truc sur « Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, nous, les colonisateurs ?» Par exemple, il y a encore, je crois, le bureau du général, du maréchal Lyautey.
Bah écoute, moi, je suis allée il y a quand même pas mal de temps. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'en fait, il y avait notamment toutes les créations notamment berbères, mais un peu de partout, et des choses... Moi, j'ai pas vu le bureau machin, là. J'en ai rien à foutre, n'importe comment, mais...
Je peux te dire qu'il est là, hein,
il est là. Non, mais ça m'intéressait pas. En revanche, il y avait une collection de bijoux, également de poterie, de paniers, enfin, toutes ces créations-là qui étaient absolument magnifiques, qui avaient été volées, évidemment, comme d'habitude, quoi.
Bien sûr. Non, incontestablement, le musée, maintenant, donc, ce musée de l'histoire de l'immigration, c'est un bel effort. Leur problème, c'est que bien entendu, le budget est minimal. Pareil pour notre musée de l'Homme au Palais de Chaillot. Le budget n'est plus du tout ce qu'il était. Et à nouveau, le problème, c'est que ces musées ne doivent pas être simplement des lieux d'exposition, mais également des lieux de recherche. Parce que mine de rien, par exemple en ethnologie, quand même la contribution des intellectuels français à l'ethnologie est absolument énorme. Et ça serait quand même abominable qu'on cesse de financer la recherche en ethnologie, maintenant on dit en anthropologie, en France. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme objet dans ce musée? Alors, l'un des exemples où les enfants, les adolescents, par exemple, ça n'a peut-être pas bien fonctionné, il y a un objet qui pourrait être très intéressant. C'est, alors les mots ne vont pas vous dire grand-chose, un mannequin pédagogique d'accouchement. Pardon ? Alors, en fait, quand on regarde là, quand on voit ce que c'est, on a l'impression de deux polochons. Alors, les deux polochons, c'est les cuisses de la dame qui accouche. Il y a un polochon au milieu, qui est le ventre de la dame qui accouche. Il y a une espèce de couture, de boudin cousu au milieu, qui représente... Alors là, on parle quand même d'un mannequin qui a été effectué au XVIIIe siècle par par une sage-femme, qui représente les labia majora, donc les grandes lèvres du vagin. Il y a une espèce de truc qui est presque grand comme un œuf. C'est un clitoris. On parle du XVIIIe siècle. Hein. Enfin, évidemment, quand même, la vulve pour les sages-femmes, c'est quand même un peu important. Et puis, en dessous de ça, on voit il y a évidemment un orifice. Et le cas échéant, il y a une poupée de bébé qui en sort à des degrés divers. Alors, c'est un objet extraordinaire. En plus, au XVIIIe siècle, c'est quand même incroyable qu'une sage-femme ait réussi à faire tolérer l'existence de cet objet. Il y a là une détermination scientifique.
Mais il était exposé ?
Il est exposé maintenant.
Non, il est exposé, mais il était exposé.
Ah non, il était. C'était un mannequin.
Juste c'était juste chez elle, et puis voilà. Elle montrait un petit peu ce
exactement,
qui
c'était quand elle avait des apprentis.
Oui, donc ça va, tout va bien. Quoi.
Oui, va, parce que c'était sous
c'était
le radar.
C'était dans l'entre-soi. Quoi.
C'est, exactement, c'était sous le radar chez les femmes, donc ce qui se passe chez les femmes, a priori. Et là, cet objet, justement, ça mériterait plus d'explications, ça mériterait une contextualisation, ça mériterait des dessins autour pour qu'on comprenne par exemple que...
Ou une vidéo. D'une femme qui accouche.
Par exemple, et qu'on voit par exemple que c'est... Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cet objet, il a été créé au XVIIIe siècle. Mais là, la manière dont il est exposé, S'il n'y a pas quelqu'un qui explique au petit garçon, à la petite fille, à l'adolescente, à l'adolescent, ce que c'est, etc.
C'est une exposition de Paul Auchan.
C'est une exposition de Paul Auchan, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc, c'est un petit peu dommage. Alors, ensuite, il y a des tas de vitrines tout à fait intelligentes. Par exemple, il y a évidemment quelque chose que les êtres humains ont et que les animaux, en gros, quasiment totalement, n'ont pas, la conscience de la mort. Nous, les êtres humains, nous savons que nous mourrons. Les animaux, franchement, on le sait souvent, un animal d'un groupe d'animaux meurt et les autres ne comprennent pas, essaient de le ranimer, mais en fait, l'animal, il est mort.
Mais ça, c'est une appréhension du comportement animal qui est tout à fait humain. Hein.
Bien sûr.
Parce que ça, on pourrait discuter très longtemps là-dessus. Moi, je n'ai pas la connaissance, peut-être, à ce sujet, mais franchement, simplement l'observation, si, quand il y a des animaux, quand ils meurent, ils vont dans certains endroits, ils se cachent, etc. Donc, ils ont une connaissance de une sorte de prémonition de la mort, que ça soit dans le groupe ou que ça soit même seul. Pourquoi, par exemple, les animaux vont se cacher, vont se protéger quand ils vont mourir. Et ils ont tous ce comportement, hein, quasiment.
Alors, là-dessus, oui, on peut en discuter, parce que est-ce que c'est simplement parce qu'ils se sentent faibles et qu'ils ont besoin de se protéger? Est-ce qu'ils savent qu'ils vont mourir? En tout cas, une chose est certaine.
Bah, elles savent, ça veut dire quoi?
Voilà, exactement. Une chose est certaine,
c'est que... Parce que toi, tu sauras quand tu vas mourir. Si t'as une... Mettons, si on a, par exemple, une attaque, comment ils appellent ça, générale, un AVC...
Un AVC.
Comment tu sais?
Ah, on sait pas. Ah.
Tu vas chez Madame Machin qui te regarde
toi,
ça dans la boule de cristal.
Pour l'instant, non, toi et moi
comme,
qui sommes vivants...
On est comme les animaux, pareil. On a le même type de connaissances avec simplement des petites variantes. Bon, maintenant, je m'arrête. À toi.
Une chose, en tout cas, qu'on fait, nous, et que... Revenons au Paul Auchan, qu'a priori, les animaux, eux, ne font pas, c'est que... Cette conscience de la mort que nous avons, avec toutes les discussions, les nuances qu'on peut apporter au mot conscience, cette conscience de la mort qu'on a, eh bien, elle se traduit par des objets. Nous, les êtres humains, nous construisons tout un tas d'objets autour de la mort, en règle générale, pour la nier, pour dire non, il est pas mort, il est vivant dans le paradis, il est vivant dans l'enfer, il est vivant. Et à nouveau, il y a là des objets extrêmement intéressants. Visuellement parlant, c'est très bien présenté. En particulier, l'un des objets les plus intéressants, c'est la reconstitution d'un hôtel mexicain de la fête des morts. Hein, comme on le sait, la fête des morts au Mexique, c'est absolument central. Il y a des centaines de milliers d'objets qui sont confectionnés chaque année sous forme de squelettes, etc.
Et on l'a vu beaucoup avec les études qu'avait fait Benjamin Perret.
Voilà, par exemple.
Et puis aussi sur le film d'Eisenstein.
Exactement. Et donc là... c'est très très bien présenté. À nouveau, c'est pas terriblement bien expliqué. Alors, je voudrais quand même parler d'un objet tout à fait étonnant. C'est une momie. Alors, c'est une momie péruvienne. Hein. On sait que les momies, c'est pas seulement égyptien. C'est une momie péruvienne d'une ethnie qui s'appelait les Chachapoya. Et cette momie a été exposée dans le musée de l'homme présent.
Tu es en train de nous raconter Tintin, là, non?
Non, tu vas voir, ça va être pire. Il a été exposé dès 1882. Eh bien non, le visage de cette momie, ça pourrait bien être, on pense que c'est l'inspiration directe du tableau d'Edvard Munch, Le Cri. Tu sais, ce tableau avec cette personne qui tient son visage entre
très,
ses deux mains.
Très, très connu.
Voilà, très, très connu.
Très utilisé fort. En pub.
Oui, malheureusement. Et franchement, quand on voit cette momie, quand on voit le tableau de Munch, quand on sait que Munch, évidemment, est allé en France, on se dit que c'est quand même extrêmement probable que ce soit de là que ça vienne. Alors, on continue, bien entendu, avec...
Alors, peut-être je te propose une musique, puisqu'on est passé sur l'autre continent. Alors là, c'est pas vraiment, disons, l'Amérique latine, en gros. Non, c'est l'Amérique, notamment avec les États-Unis, et c'est un chant navarro.
Muy bien. Thank you.
C'est un chant navarro et c'est le Sacred Wind, c'est-à-dire le vent sacré, et c'est chanté donc par une chanteuse navarro qui s'appelle, qui est très connue, hein, qui s'appelle Sharon Bourche, et ça, c'est extrait d'un album tout simplement Native American Music.
Et mine de rien, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu, sans maître ni publicité. Nous sommes toujours dans Les Muses s'amusent, avec Christiane.
Ça y est, il va...
À la technique.
Moi qui ai parlé de mort tout à l'heure, voilà. tu vas pas mourir sur, sur scène. Hein.
Non, non,
fais pas ton Molière. Hein.
Je fais pas mon Molière, c'est promis, c'est juré. Alors, nous sommes toujours à parler du Musée de l'Homme, et maintenant nous sommes à parler de la version, la dernière version, la version moderne, actuelle, du Musée de l'Homme. Et toujours dans cette partie du Musée de l'Homme qui traite de « Qui sommes-nous ?», eh bien, il y a quand même quelque chose de très important avec l'être humain, c'est que l'être humain, il est capable de penser. Alors évidemment, comme Monsieur Gérald Darmanin, il peut penser très très mal, ou comme des tas d'autres gens, il peut penser très très bien. Enfin, aucun doute, il peut penser. Et là-dessus, il y a une vitrine un petit peu amusante qui nous présente une... Pardon. Une quinzaine de différents cerveaux. Alors, pas des cerveaux humains, il y a un cerveau humain, et puis il y a tout un tas de cerveaux d'autres animaux. Donc, par exemple, il y a un cerveau de crocodile du Nil, il y a un cerveau de rat, il y a un cerveau de Macron. Non, pardon, excusez-moi, j'étais perdu dans le cerveau du rat.
Tu dérapes.
Je dérape, effectivement. Il y a un cerveau de langoustine, il y a le cerveau d'Elisabeth Borne. Non, pardon, c'est le cerveau de moineau domestique. Excusez-moi.
Oh, c'est pas gentil pour les moineaux, t'es dégueulasse.
Oui. Oh, mais je suis cruel ce soir. Y a même un encéphale de varan gris, etc. Enfin, c'est tout à fait intéressant. Et là, on voit bien que la véritable différence entre le cerveau des êtres humains et les autres cerveaux, parce que vous savez qu'il y a aussi des cerveaux qui sont de taille considérable, hein. Le cerveau d'éléphant, le cerveau de baleine, c'est tout à fait énorme. Mais en revanche, c'est à la surface du cerveau d'être humain, c'est uniquement à celui-là qu'on voit tous ces plis et replis, donc ce fameux cortex, en particulier le cortex néofrontal, qui ont permis en particulier l'émergence de ce qu'on appelle la pensée symbolique. Alors attention, je voudrais bien préciser une chose. Moi, très souvent, pendant très longtemps, trop longtemps, quand on me disait pensée symbolique, je pensais au symbole. La balance, c'est la justice, l'épée, c'est la force. Non, 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 la pensée symbolique, c'est bien plus fondamental, c'est très très simple. Nous, les êtres humains, nous utilisons quelque chose qui s'appelle le langage, et dans le langage, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On prend pour désigner ou penser à une chose, pour penser à un hippopotame, on ne prend pas un hippopotame, eh bien, on prend quelques phonèmes, quelques sons qui deviennent un signe et un symbole de l'hippopotame.
Ah bon, tu peux me faire l'hippopotame ?
Bouh !
D'accord.
Okay. Non, mais c'est un hippopotame très personnel, créatif.
Bon, alors c'est bien joli là, avec tes animaux, là, tu es en train de nous faire le zoo, c'est très intéressant, avec l'histoire des cerveaux, etc. Moi, je suis très très dubitative n'importe comment, mais ça, c'est ma nature. Simplement, il y a une chose que je m'étonne un petit peu, parce qu'alors, il y a les animaux, le musée de l'homme, dis donc, et les femmes alors ?
Ah, mais non, attends. Alors, les femmes, il y en a un peu. Il y en a un peu.
Oui, un peu.
Ouais, il n'y en a pas des tonnes.
Non, parce que je dis ça parce que, par exemple, quand tu vas au British Museum à Londres, eh bien, il y a plusieurs salles qui sont, donc, où il y a justement des sortes d'objets, notamment d'agriculture, etc., qui montrent quel était le rôle des femmes, même des armes, puisqu'il y a quand même eu, même si on dit que c'est un mythe, il y a quand même eu les Amazones, faut pas, hein, n'oublions pas. Elles ont, donc je pense que, d'un seul coup, évidemment, on est en France, et donc les femmes, tu dis, il y en a peu au Musée de l'Homme.
Alors,
encore une fois, elles sont sous le...
Oui, elles sont... Alors, bon, faut pas exagérer, elles sont pas absentes.
elles sont là pour le décor. Merci.
Ça, pareil, ouais,
on va se fâcher là.
Non, pareil, ça serait exagéré de dire qu'elles sont là que pour le décor. Mais incontestablement, c'est pas le C'est pas l'axe central du musée tel qu'il est présenté.
Tiens, tiens. Non, mais je rappelle simplement que voilà.
C'est le musée de l'homme.
Oui, c'est le musée de l'homme.
C'est le musée de l'homme.
Ah, bon, on devrait faire un musée de la femme, parce que moi, je commence à en avoir marre, parce que on est moitié-moitié sur la terre entière, en France aussi.
Oui.
Donc, je crois que même on dépasse un petit peu en France, mais peu importe. La question n'est pas dans le nombre.
Oui.
La question, elle est dans la reconnaissance du rôle de tous ceux et toutes celles qui donc participent à la société française.
Alors, là, simplement, on allait en parler, tu t'avançais un petit peu, mais puisque tu en parles, il y a deux choses à dire déjà directement sur le sujet. Il y a une présentation extraordinaire, visuellement extrêmement intéressante dans ce musée, qui est une espèce d'énorme, on va dire une vague. Oui, ça ressemble à une vague. Et une espèce de grande passerelle en forme de vague, comme la vague de Hokusai.
Ah ben justement, en ce moment, j'ai vu ce film ce matin, donc c'est très beau.
Voilà, c'est très très beau.
Et là, les femmes, elles n'étaient pas absentes.
Voilà, et qui s'appelle l'envolée des bustes. Alors qu'est-ce que c'est que cette envolée des bustes? Eh bien, c'est exactement le mot décrit très bien ce que c'est. Parce que cette forme de vague, ça pourrait être aussi comme un vol, quoi, parce que ça part verticalement. Et sur cette envolée, eh bien, il y a des bustes. Parce qu'à nouveau, souvenons-nous, ce musée de l'homme, c'était un musée d'anthropologie physique. Donc on voulait présenter les différents types physiques des êtres humains. Et par conséquent, il y a à peu près 90 bustes d'êtres humains de différentes régions du monde. Alors, soudanais, tasmaniens, inuits, etc. Et bien entendu, ces bustes, alors certains sont en bronze noir, mais beaucoup sont moulés à la cire, et donc on a donné une attention particulière à la carnation, au teint, donc à la carnation de la peau, à la couleur des cheveux. Pour les hommes, eh bien, il y a beaucoup de barbus et de moustachus. Alors évidemment, les barbes et les moustaches taillées selon la culture d'où viennent les gens. Et puisque tu parles des femmes, moi c'était une chose qui m'a frappé quand j'ai vu pour la première fois cette envolée des bustes. Je me dis, mais il n'y en a pas des masses, des femmes là-dedans. Alors j'ai pas compté, mais si on me disait qu'il y a, sur les 90, il y a 15 femmes, je ne serais pas étonné. Donc à nouveau, on parle bien entendu de bustes qui ont été faits au 19e siècle, hein. Donc là, bien entendu,
Ah oui, c'est un des siècles les plus réac pour les nanas. Mais...
Exactement, voilà. Hein. Les femmes, ça n'existe pas.
C'est vraiment...
Voilà, c'est tout à fait... Et il y a une espèce d'instrument abominable qui s'appelle un céphalomètre, donc qui permettait de mesurer la taille des crânes. Et on sait qu'au 19e siècle et jusque sous les nazis, on a cru que les dimensions du crâne humain démontraient la supériorité ou l'infériorité de tel ou tel... de telle ou telle partie de l'humanité.
C'était la parenthèse Gobineau.
Alors, oui, exactement. Charmant monsieur Gobineau. Glissons. Alors, mais puisque tu as lancé les femmes, eh bien, il y a un objet que tu connais fort bien, que tu aimes beaucoup, et qui est un objet relativement célèbre, c'est la Vénus de Lespugue. Alors là, on avance un petit peu dans ce qu'on voulait dire, parce qu'on n'est plus à qui sommes-nous, mais on en est à d'où venons-nous, c'est-à-dire à la zone de la préhistoire. Or, il se trouve que parmi les objets préhistoriques que l'on a trouvés un peu partout en Europe, eh bien, il y a à peu près, alors on parle du paléolithique supérieur, donc on parle d'en gros... 20 000 ans pour cet objet-là, ça peut être 30 000 pour un autre, ça peut être 15 000 pour un troisième. Ce sont ces statuettes, pas très grandes, qui sont des statuettes féminines et qui sont des statuettes de femmes qui ont des fesses gigantesques, des seins également gigantesques, qui sont donc des femmes avec une proportion de gras très importante, qui n'est pas impossible. Ce ne sont pas des corps impossibles, il y a des femmes qui peuvent être comme ça. Et ce qui est surprenant...
Mais c'était en fait, ça représentait la fécondité. Hein.
Alors, voilà le problème, c'est que on peut difficilement penser autre chose que ça représente la fécondité. D'ailleurs, on sait que le gras, hein, la présence du gras dans le corps féminin aide à la fécondité du dit corps féminin.
Puis ça protège
voilà,
et du
ça
froid.
Ça protège du froid, ça protège de beaucoup de choses. ce qu'ont provoqué ces statues, qui ont beaucoup surpris quand on les a découvertes, il y en a plusieurs, vous connaissez peut-être aussi la Vénus, la Dame de Willendorf et la Vénus de Brassempouy, mais il y en a encore un paquet d'autres, c'est que ça a posé la question, ça a lancé cette spéculation qui a été en particulier écrite par un monsieur qui s'appelle Bachofen, sur le matriarcat. On sait qu'en gros, maintenant, sur la planète, la quasi-totalité des sociétés, pas la totalité, la quasi-totalité, c'est très important, sont des sociétés patriarcales. Mais, la survivance de quelques sociétés plus ou moins matriarcales, on les compte sur les doigts d'une main, enfin, elles existent quand même, permet de se poser la question, oui, mais est-ce que le patriarcat a été quelque chose qui date des débuts de l'humanité, ou est-ce que c'est une construction évidemment social, qui est arrivé, et s'il est arrivé, quand ?
Alors là, en France, il n'y a pas grand-chose, mais en tout cas, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et dans d'autres pays, il y a eu beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, qui sont très intéressantes, puisqu'ils remontent à la fameuse déesse Inanna, qui était la déesse mère. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les autres musées, donc pas à ce musée-là, bien sûr, eh bien, il y a eu des collections par exemple, de couples qui sont montrés où, dans quasiment tous les couples, la femme est plus grande que l'homme.
Alors voilà quelque chose qui n'est absolument pas montré.
Eh ben non. Pourtant là, j'ai des preuves.
Je peux te le dire. Ah oui, non, il n'y a aucun doute.
Moi, j'ai des preuves. C'est pas moi qui ai des preuves. J'ai vu des preuves puisqu'il y a énormément d'études et beaucoup de livres qui ont été faits là-dessus. Puisque justement, tout le monde se pose la question. D'où vient, comment ça s'est passé le patriarcat? Est-ce que c'est la peur, justement, de ces Amazones mythiques? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les femmes avaient plus d'importance puisque c'est elles qui enfantaient? Bon. D'accord, il y a la petite graine, mais la petite graine toute seule, elle sert à rien. Donc, et en plus de ça, les femmes, par exemple, c'est ce qu'on voit justement au British Museum à Londres, c'est que les femmes étaient responsables au départ de la culture pendant que les hommes allaient chasser, machin, et se battre avec les autres, etc. Donc, il y a tout ça qui fait... En fait, on cherche, on continue de chercher. Mais en France, on a l'impression qu'il y a quand même un petit... C'est quand même un pays très, très, très,
on
très
reste
machiste.
Encore, on reste encore passablement Mathieu sur le sujet. Je serais intéressé d'ailleurs, je pense que ça serait intéressant de discuter avec des gens qui travaillent dans ce musée, parce qu'il y a plein de femmes qui travaillent dans ce musée, et qu'est-ce qu'elles pensent de la collection et du fait que, à l'évidence, les efforts pour parler des différences de genre, il y a des vitrines où on en parle, mais clairement, ce que tu décris par exemple du British Museum, ça ne se voit pas.
Il y a pourtant trois salles
à Londres. Non, pas du tout là.
De plus, il y a une chose aussi, si tu veux, je pense que par rapport à ce que tu viens d'évoquer et aux chercheuses qui sont dans ce musée, si elles sont simplement chercheuses et non pas féministes, elles trouvent ça à peu près normal, quoi. Parce que quand tu as
j'ai un petit soupçon que ça soit comme ça. J'ai un peu, mais j'en sais rien. Oh, très honnêtement,
moi non plus.
Rien.
C'est une hypothèse que je lance, mais je me demande, vu la réaction de certaines femmes par rapport à, je sais pas, l'orthographe inclusive et tout ça, celle qui était le plus, enfin en tout cas dans mon domaine professionnel, celle qui était le plus revêche et le plus anti, c'était les femmes. Donc il faut penser aussi que les femmes ont souvent été là pour, disons, continuer la tradition.
Alors il y a quand même une vitrine entière dédiée aux marques de genre. Et ça, c'est bien qu'ils le posent comme ça. Et c'est les marques de genre. C'est comment est-ce que les êtres humains montrent le genre auquel ils appartiennent ou auquel ils ou elles veulent appartenir ou auquel on les fait appartenir malgré leur éventuelle volonté. Donc, il y a une vitrine. Incontestablement, je pense que le sujet aurait mérité qu'il y ait beaucoup plus que ça. Cela dit, ce qu'il y a, en gros, va dans la bonne direction. Mais simplement, il n'y en a pas des tonnes. C'est comme ça qu'on peut le dire sur ce sujet-là.
Alors peut-être, je vais t'envoyer une petite chanson qui est doublement d'actualité, puisque ça parle des poubelles, et puis ce sont des femmes. Voilà.
Comment ça parle des poubelles? On ne va pas parler de Macron et de Darmanin dans cette émission, c'est pas possible.
Darmanin,
c'est le contenu de la poubelle, et Macron, c'est la poubelle, ou c'est l'inverse?
Comme tu veux.
Bon, d'accord.
Quand
dont on jette ses ordures. Du cerveau, c'est la torture. Container vert ou bien jaune, je me pose, je résonne.
Pour jeter un vieux trombone.
C'est dans quel container?
Un trombone, c'est un fer.
Je penche pour le bac jaune.
Mais comme c'est tout petit,
je le mets dans le bac gris. Je promène mon chien
qui se vide l'intestin
et qu'il n'y a à l'horizon pas de boîte à déjection.
Alors un jour me vient
arpenter un long chemin,
mon sac à caca à la main,
ou m'en défaire au plus tôt
dans le premier bac qui vient
sous les noirs de mes voisins.
Ce que je préfère, c'est le conteneur en fer.
Je me sens rentrer en transe quand j'entends se briser le verre.
Je retombe dans l'enfance
en jetant feu mes corbières.
Mais dans les feux de l'action,
on n'oublie pas attention
de retirer en amont les capsules et les bouchons.
Et je ne vous parle pas du gâchis qu'il y a la vie dure.
Pourquoi n'existe-t-il pas des questions pour la capture des restes de nos repas?
On pourrait, tiens, pourquoi pas
mettre à tous les coins des rues
des bêtes en forme de chat
pour glaner la nourriture
qui manque à la SPA. De nos dirigeants, les restes, un jour on recyclera.
Mais qu'est-ce qu'on en fera?
Un peu de chair à canon?
Non.
Ou bien de nouveaux bifetons, du mastic à trop d'ozone pour nos cochons, du bacon, un détecteur de mensonges, du purin pour faire du
bio.
Et remplir nos frigos. Ça s'appelle le dilemme des poubelles. C'est donc les Famousti qui. C'est ce nouvel album hein, qui a pour titre Résistance. Donc c'est pour ça que je voulais absolument le passer, Résistance. Et puis aussi pour vous dire que sur Radio Libertaire, il y a trois émissions. On va les rencontrer donc la semaine prochaine. Il y a trois émissions qui vont vous parler. Et donc on sera avec Rita des Famousti. On vous parlera donc dans Orage Mécanique, dans Délibéré et puis dans évidemment les Chroniques Rebelles. Voilà, j'ai tout dit.
Cette chanson était absolument merveilleuse.
J'étais bien, hein.
Ah, j'étais mort de rire et effectivement, elle est parfaitement d'actualité. Alors mine de rien, on est toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans dieu, sans maître, sans publicité et sans ordures, puisque les ordures, elles sont à l'Élysée, pas chez nous. Et
ça aurait été une bonne idée, ça, d'ailleurs, de mettre toutes les ordures devant l'Élysée.
Ah mais moi, je ne demande que ça, moi. Allez, on va vider toutes les bennes autour de l'Élysée. Et ce sont toujours les Muses s'amusent, et nous parlons toujours du Musée de l'Homme, et qui, comme Christiane le faisait fort justement remarquer, ne s'appelle pas le Musée de la Femme, ni même le Musée de l'Être Humain, ou le Musée de l'Humanité. Alors, quand on parlait d'ordures, eh bien, ça fait penser à l'environnement, ça fait donc penser à la nature, donc je me bats les flancs pour trouver la transition, parce qu'il y a quand même une vitrine dont j'aimerais parler un petit peu dans ce musée, une vitrine qui résume et qui est typique de ce musée, en ce sens que visuellement elle est très belle, que intellectuellement elle est très intéressante, mais que je vous parie que pour un enfant de 8 ans, eh ben, il la regarde, il y a deux ou trois objets qui l'amusent, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour lui expliquer, ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Alors de quoi s'agit-il? Ça s'appelle « Vision de la nature ». Ah mais c'est que c'est très important ça. Parce que l'être humain a développé plusieurs manières de vivre son rapport avec la nature. Alors évidemment, nous sommes en Occident, nous sommes a priori des occidentales et des occidentaux. Donc commençons tout simplement par la version occidentale. Et cette version occidentale, elle est en fait très bien résumée par une grande photographie qui vous montre une moissonneuse-batteuse en train de récolter du blé dans un champ. Donc la version occidentale du rapport avec la nature, elle est extrêmement simple. L'homme, c'est le sujet. Plus exactement, plus que le sujet, c'est pas le sujet simplement et l'objet, c'est le chef.
C'est le maître.
C'est le maître. Hein. L'homme
puis domine. Encore, on ne vous montre pas les pesticides qui ont été foutus avant. Hein.
Non, ni même le lisier. Enfin, voilà, bref, glissons. Et donc, cette photo est déjà très parlante. Alors, bien entendu, on va montrer aussi un buste d'Aristote. On montrera aussi le crâne de René Descartes. C'est quand même également important. Descartes qui pose cette séparation entre le sujet et l'objet, entre l'individu et tout le reste. Alors, il y a vaguement Dieu quelque part, mais enfin, il l'a mis là parce que sans ça, il allait se faire rôtir au bûcher. Et ça, c'est donc la vision occidentale de...
Il n'y a pas les déchets nucléaires ?
Non, pas encore. Non, là, tu exagères un peu, Christiane. Tu exagères un peu.
Il n'y a pas les ZAD ? Pourtant, c'est le rapport à l'environnement.
Ah non, mais c'est fini.
La défense de la nature.
Attends, Darmanin a décidé de créer, comme tu le sais, une cellule anti-ZAD. Donc, c'est fini, les ZAD. Bon, on va voir. Espérons que ça
je
n'est pas si fini.
Je me demande combien de temps il va sévir, celui-là.
Espérons le moins longtemps possible. Ensuite, une autre vision de la nature, eh bien, c'est la vision asiatique, où l'homme fait partie de la nature. Et en gros, l'homme est un microcosme qui reflète le macrocosme, lequel est la nature. C'est d'ailleurs une vision qui n'était pas très loin de certaines visions occidentales antiques, mais enfin, en tout cas, dans les différentes philosophies et religions asiatiques, c'est en gros l'idée que l'homme donc reflète en petit ce qu'est la nature en grand. Troisième...
Est-ce qu'il y a les grandes bassines, puisqu'il y a les moissonneuses ?
Non, alors les méga bassines, là, ce musée, donc à nouveau, il a été pensé en 2015. Donc la protestation envers les méga bassines, d'ailleurs, je ne sais même pas de combien ça date, les méga bassines, ça doit être ancien, j'imagine.
Oui, ça devient plus ancien.
Mais la protestation à grande échelle, donc c'est un peu trop. C'était pas d'époque.
Non, parce que c'est l'environnement.
Ah, complètement.
Parce qu'à partir du moment où tu fais des grandes bassines, ou des méga-bassines, comme on veut, et que c'est distribué qu'à certains et qu'à certaines, là, il y a un problème.
Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Si on décide que l'homme est le maître de la nature et que parmi les hommes, il y a des maîtres, voilà, eh bien, il y a des hommes qui vont être plus maîtres de la nature que les autres.
Déjà, les femmes, out.
Déjà.
Mais les hommes, voilà. Et on va les vendre... hommes, il va y avoir déjà un tri aussi.
Et on va vendre l'eau qui est, par ailleurs, un bien commun. Glissons.
Non, troisième. On glissera pas complètement parce que j'ai préparé une musique.
Mon Dieu.
Qui justement parle de ça, puisque c'est tiré d'un album de Tina Riwen, et ça s'appelle Aman Iman, l'eau, c'est la vie.
Oh, ça c'est pertinent.
Le rêve, 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 le r
Et tu vois, Jean-Manuel, là, il y a des femmes qui chantent. Comme par hasard. L'eau, c'est la vie, donc elles font partie, évidemment, de l'eau, de la vie. C'est donc de la musique de Mauritanie, c'est donc Tina Riwen.
Toujours excellent. Alors, juste avant, parce que là, je vois ce que veut suggérer Christiane, mais juste avant d'en arriver à la raison pour laquelle elle a fait passer cette excellente musique, juste pour revenir à cette vitrine des visions de la nature, il y a donc les deux dernières autres visions de la nature présentées. Une vision qui est celle des peuples tribaux, on va dire, de la plupart des peuples tribaux, où la nature est peuplée d'entités, d'esprits, d'êtres, qui sont soit les égaux, soit parfois même les supérieurs des êtres humains. Et donc la nature n'est pas un domaine qui appartient à l'être humain et que, sur lequel l'être humain a tous les droits d'us et d'abus, mais quelque chose où on vit en communauté. Et ça, bien entendu, c'est répandu sur toute la planète. Et puis, il y a une magnifique peinture d'un aborigène australien qui nous rappelle cette quatrième vision de la nature, pas si connue que ça, qui est celle des aborigènes australiens, et pour qui la nature, c'est un lieu de processus, c'est un lieu de passage. Hein, vous savez que pour les aborigènes australiens, eh bien, le continent australien, c'est fait de pistes. C'est fait de pistes qui sont, et dont la connaissance est transmise par des champs. Et donc, la nature, c'est un lieu de passage. Alors, une fois donc, après ces visions de la nature, revenons à cette chanson que nous a proposée Christiane. Et elle l'a fait parce qu'il y a, dans ce musée de l'homme, les objets sans doute les plus beaux montrés dans ce nouveau musée de l'homme, ce sont des relevés absolument magnifiques. Des relevés de fresques qu'on trouve dans le Tassili. Alors là, les formes sont sublimes. La couleur est très belle, même si ça tourne toujours autour de l'ocre. Mais c'est normal, parce que là, ce sont tout simplement des peintures qui ont été faites effectivement sur des murs ou sur des massifs rocheux en plein Sahara, donc avec les matériaux disponibles, c'est-à-dire principalement les différentes sortes d'ocre qu'on a pu utiliser, et rien que ça fait que ça mérite, le musée de l'homme mérite d'être visité, ne serait-ce que pour admirer ces fresques. Et puis je voudrais terminer avec ceci sur toute la zone où allons-nous, qui fait un peu respirer en particulier, et qui permet de faire un pied de nez à monsieur Jacques Chirac, qui espérait étrangler les musées d'ethnographie. Et là, carrément, on n'est plus tellement dans un musée d'ethnographie, mais d'ethnofuturologie, car il y a en particulier une vitrine, à la fois terrifiante et extrêmement intéressante, qui est une vitrine sur, qui s'appelle « Réparer l'homme », et qui est en fait une vitrine sur les prothèses de l'être humain. Or, là aussi, c'est quelque chose de principalement uniquement humain. Bon, il y a des animaux qui se servent de certains outils. Enfin, quand même, c'est surtout l'être humain qui a compris qu'il pouvait utiliser des objets et qu'il pouvait décupler, amplifier, allonger, etc., son action sur le monde physique en utilisant des objets.
Quand même, il faut le dire, après avoir détruit. Hein.
Ah, bien entendu.
Parce qu'après les mines antipersonnelles, effectivement, on fait des...
Ah ben, les mitrailleuses aussi, voilà, hein, quant aux missiles.
Les bombes, etc.
Et cette vitrine est tout à fait fascinante parce que, d'un côté, principalement, il y a ce qu'on appelle les prothèses classiques. Alors justement, tu parlais de guerre, ça tombe bien, hein, les mines antipersonnelles, c'est bien connu, ça vous bousille les jambes. Donc il y a plusieurs prothèses de jambes et de bras artificiels. Bon, et puis, mais les prothèses, ça va dans tous les sens. Et donc, vous avez un autre bout de la vitrine où vous avez, eh bien, des petits personnages en plastique, vous savez, qui représentent des personnages de science-fiction, des super-héros. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, il n'y en a pas beaucoup de femmes. C'est curieux, hein. Non, il n'y en a pas beaucoup.
C'est bizarre.
C'est bizarre. Bon, c'est pas grave.
Pourtant, il y a Catwoman. Hein.
Oui, j'ai une photo sous les yeux, là.
Mais alors, elle est sorcière, alors elle est passée à la trappe, les sorcières.
Floup.
Ah, d'accord,
floup.
Ok.
Et puis, parmi toutes ces prothèses, il y en a quand même une absolument importante et plutôt abominable, l'ordinateur. ils ont eu quand même l'intelligence de mettre dans cette vitrine de prothèse, eh bien, un ordinateur portable. Je crois même que doit y avoir des téléphones portables par-ci, par-là. Et tu parlais de prothèses et d'objets qui peuvent aussi détruire. Eh bien, évidemment, là aussi, bien entendu, nos prothèses, nos outils, ce sont des Janus, selon l'usage que nous en faisons. Nous nous en sommes servis pour améliorer ce que nous croyons améliorer notre vie. Nous nous en sommes servis également pour détruire l'environnement. Enfin,
Je rappelle quand même qu'en France, c'est le pays, je crois, de l'Union européenne qui utilise le plus d'armes interdites dans d'autres pays européens, notamment utilisées par la police dans le cadre des manifestations.
Voilà une prothèse excellente, par exemple, pour éborgner autrui, on se sert d'un lance-grenade. Voilà une excellente prothèse. Et donc, mine de rien, je recommande quand même vivement la visite de ce musée de l'homme, mais venez équipés. Lisez avant ou lisez après. Pour des enfants ou des ados, franchement, ça vaut le coup de venir avec un adulte qui va expliquer, parce que, à nouveau, les objets sont intéressants, les idées présentées sont en général extrêmement intéressantes, mais ça demande vraiment qu'il y ait quelqu'un pour vous expliquer ce que vous voyez. Sans ça, hormis le fait que c'est en gros très beau, on est quand même assez vite perdu. Toujours est-il que j'en recommande la visite. Donc à nouveau, c'est au Palais de Chaillot, métro Trocadéro, à Paris, et ça vaut bien mieux que le Palais du Roi de Rome que Napoléon aurait voulu mettre là.
Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. La jeunesse est là, les richesses abondent, l'avenir nous attend. Le soleil appelle le tourisme. Pas de postulat, la bonne humeur vagabonde. Combattant, exploitant, il n'y a pas d'opportunisme. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre? Faut pas nous dire à nous que notre Afrique est pauvre. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir.
L'Afrique a besoin de personne, juste envie de vivre de grandeur et d'estime les mêmes mots qui résonnent. Wow. Comment réussir? Un cartable sur une épaule. Marcher pour s'enrichir, le pouvoir de s'instruire, déterminer, mais ça, pouvoir réagir. Hey, Abina, y allons, c'était nous le chaleuron. Abina, y allons, oh.
Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir.
Yeah, yeah, oh, car l'Afrique est l'avenir du monde et son passé. Ce qu'elle tient dans ses bras ne peut se remplacer. Traité comme une paria mais tellement convoité. Hey, car maman Africa est riche de ses enfants. We not give up. Sa jeunesse va de l'avant. Cesse d'écouter les plus offrants. Never give up. Tes anciens maîtres ont fait leur temps. Non, l'Afrique n'est pas pauvre si elle souffre en silence. C'est qu'elle a porté tant de fardeaux. Pourquoi dire qu'elle est pauvre si ce n'est pas suffisance? Comme ceux qui veulent voler ses joyaux.
Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu
sais qu'il a tout pour réussir. Ici au Congo, j'ai le coltan.
En Algérie, on a le pétrole.
Au Bénin, nous on a le coton.
Nous les Ivoiriens, on a le cacao. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre? Faut pas nous dire à nous que notre Afrique est pauvre. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir.
Eh bien, nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans ordure.
Mais avec de la musique.
Mais avec de l'excellente musique qui a été choisie par Christiane, qui était à la technique et aux questions. C'était donc Les Muses s'amusent avec Jean-Manuel. Et nous avons donc parlé du Musée de l'Homme, entre autres choses, dans sa nouvelle version que je vous conseille d'aller visiter.
Alors évidemment, bon, on se retrouve dans un mois, et en plus de ça, ça sera le 1er mai.
Yeah.
Donc, pourquoi pas, on ne sait pas encore trop ce qu'on va choisir, on verra. On verra, peut-être vous parler de plusieurs expos, peut-être quelqu'un viendra, une invitée ou un invité, puisqu'il y en a une qui nous a fait faux bond, donc on a un peu improvisé cette émission aujourd'hui. Mais bon, peu importe, n'importe comment, on sera là le 1er mai prochain, pour les Muses s'amusent.
Et pour le Proton se rebiffe...
Ah oui, ça c'est dans deux semaines.
Pour le proton se rebiffe. Nous parlerons du livre d'un ami qui s'appelle Carlo Milani, excellent livre en italien, mais qui paraîtra sans doute en français.
Mais ce qui est très intéressant dans ce, puisque moi j'ai fini le montage, ce qui est très intéressant dans cette émission, c'est qu'en fait, ça fait tout à fait la suite de ce dont tu viens de parler aujourd'hui, c'est-à-dire du Musée de l'Homme. Tu parlais un peu de ce qui était positif, ce qui n'était pas positif. Et lui parle justement de l'ordinateur, c'est-à-dire mais d'Internet, l'ordinateur n'étant qu'un outil. Donc, il parle d'Internet et il parle de comment ne pas être complètement aliéné. Et il explique ça aux gosses. Et donc, toi, tu as pris l'exemple de la petite fille, de la gamine de 8 ans, qu'est-ce qu'elle va piger si, par exemple, on lui dit « Dis donc, sur ton TikTok, là, ça vient d'où ton TikTok ?» Et la gamine « Beuh, 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 beuh. » Eh bien, ça vient de Singapour.
Magnifique.
Donc et ça, c'est dans deux semaines.
Et dans un mois, et le 15 mai, si je me souviens bien, enfin, en tout cas, dans le Proton du mois de mai, on aura Édouard Jourdain qui nous parlera, alors d'abord d'un livre, j'ai oublié le titre exact, mais c'est quand même assez rigolo, les normes, quelles normes comptables pour une société du commun. Alors le titre m'a tellement surpris que je l'ai lu, c'est très intéressant, et on parlera de d'un autre de ses livres, alors là qui est un sujet qui me tient à cœur, qui s'appelle Théologie du capital. Donc évidemment les liens extrêmement étroits, incestueux, entre religion et capitalisme.
Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que voilà, au revoir.
Bonne soirée à tout le monde.
Salut.